Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Cliff Staple Lewis, 1898-1963. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions, cet été a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi et sa moitié le dimanche. Hier, nous étions avec Tolkien, alors aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était, lui aussi, écrivain et universitaire, de celui qui, lui aussi, a écrit un best-seller de la littérature fantastique, de celui qui était le vieux copain de Tolkien. Sur les photos, Cliff Staple Lewis pose en universitaire trop sérieux. Il est à son bureau, en train de lire ou d'écrire, devant des bibliothèques. Il porte toujours ses lunettes et sur sa table, il y a des feuilles, des cahiers et parfois une tasse de thé. Il est en costume de tweed, en cravate et gilet, et parfois, comme son ami Tolkien, il a la pipe à la main. Mais sur un vieux cliché, il est assis dans un fauteuil près d'une cheminée et il lit un livre vraiment énorme, à la reliure de cuir ancienne. Et là, on est à deux doigts d'imaginer un vieux grimoire de sorcier. Mais pourtant, on ne l'envisage qu'en rat de bibliothèque, au point de n'avoir comme seul espoir d'évasion qu'à espérer qu'en ouvrant de vieilles armoires, il pourra enfin entrer dans un autre monde. Alors ouvrons la porte pour écouter Cliff Staple Lewis dans un documentaire de Lydia Benitzak, réalisé par Séverine Cassard.
Peter, Peter, réveille-toi, Peter, réveille-toi, ça existe, c'est vraiment là.
Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles?
Narnia, tout est dans l'armoire, comme je te l'ai dit.
Tu as sûrement rêvé, Lucie.
Mais non, j'ai pas rêvé.
Vous savez qu'il est devenu célèbre en Angleterre pendant la guerre. On lui a demandé de faire des causeries à la BBC. Et c'était des causeries d'un quart d'heure tous les jours. Et c'était en pleine guerre, en plein bombardement à Londres, etc. Et tout le monde écoutait ça. Hein. Ça, j'ai eu des témoignages. Parce que ce qu'il disait, c'est très simple, ça va très loin et ça vous met au pied du mur. Alors évidemment, on y croit ou on n'y croit pas, ça c'est une question de liberté personnelle. Mais dans cette partie de son œuvre, il y a des trésors.
Episcopal Radio TV Foundation, voix de C.S. Lewis, archive Londres 1958, Les Quatre Amours.
In Greek, there are four words for love. Storge, S-T-O-R-G-E, means affection, the sort of love that ought to be between near relations. Philia, P-H-I-L-I-A, means friendship. Eros, E-R-O-S, is of course the love between the sexes. And agape, A-G-A-P-E, is love in the Christian sense. God's love for man and the Christian's love for the brethren.
Les fameux quatre amours, de quels quatre amours s'agit-il?
Il y a Eros, qui est l'amour entre les sexes. Il y a Philia, qui est l'amitié. Storge, l'affection. Et puis l'agapé, qui est l'amour de Dieu, souvent aussi traduit par la charité.
Benedictus benedicat per Iesum Christum Dominum Nostrum. Amen. Amen.
Alors, cette régate,
on les a battus à plein de coutures.
Merci, Bernard. On a pris la tête dès le départ.
Gros chahut beaucoup ce soir.
Il faudrait prendre des mesures.
Jack, Jack! Mais où est mon Jack?
Quelle surprise!
Mais pourquoi une surprise?
Je te croyais en tournée à vanter ta camelote.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Christopher?
Je te vois comme une espèce de colporteur médiéval vendant des morceaux de la vraie croix d'une origine douteuse.
Ces colporteurs étaient catholiques et Jack ne l'est pas. Je peux en témoigner.
C'était une métaphore, Harry. Non, Jack fabrique et commercialise des réponses faciles aux questions difficiles.
Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
Que Jack fabrique et commercialise
des réponses faciles
aux questions difficiles.
Je voudrais vous poser une question à propos des livres de votre frère. Est-ce qu'il connaît des enfants?
Des enfants? Jack? Non, j'en doute.
Comment fait-il pour écrire ses livres?
Jack, on prétend que tu ne connais pas d'enfants. Ça m'intrigue beaucoup, je dois dire.
Ça te paraît étrange?
Jack, excuse-moi, tu as oublié mon phare.
Je suis sûr que ta femme serait d'accord.
Et qui t'a dit que je n'en connaissais aucun? Qui?
C'est Warney.
N'oublie pas que Warney a été un enfant autrefois. Et tu seras très surpris d'apprendre que c'est aussi mon cas.
Thank you.
à Lewis, qui aimait se faire appeler Jack, dans tous les greniers du monde, il y aura toujours une armoire dans un recoin, et derrière les fourrures, comme derrière les pages, toujours une géographie imaginaire, toujours une dimension supplémentaire, un second monde dont qui pourra dire lequel est le vrai. La réalité ramenée au rang d'une croyance comme une autre, et tous les pays imaginaires existent aussi intensément que l'enfance en nous.
Vous ne voulez pas qu'on joue à cache-cache ? Allez, Peter, s'il te plaît !
Irène Fernandez, Lewis est arrivé un petit peu en France par le truchement des studios Disney. Qu'est-ce qui, à votre avis, a freiné sa popularité en France, en tout cas ?
Écoutez, c'est difficile de donner des réponses générales à cette question, mais d'une part, j'allais dire, c'est un Anglais, enfin, Irlandais en fait, mais c'est un Anglais qui s'est fait connaître, vous venez de parler de Disney, par les chroniques de Narnia, par une trilogie de science-fiction, et ce sont des genres qui n'étaient pas considérés comme des genres nobles. Ça, c'est une première raison, on le considérait comme, il y a très bons auteurs pourtant dans ce domaine, mais on ne s'en occupe pas, si vous voulez, dans les médias officiels. Ensuite, bon, c'est quand même un chrétien militant et les gens ne le comprennent pas. Et puis, il est très difficile de passer de l'Angleterre à la France, j'ai remarqué. Le Channel est beaucoup plus profond même que l'Atlantique, le Pacifique. C'est comme ça. Enfin, maintenant, je pense que les choses changent un peu.
Il a notamment publié des articles littéraires qui n'ont pas été traduits en français.
Effectivement, en fait, Lewis avait, pour simplifier beaucoup, il avait au moins trois casquettes. Il avait sa casquette d'auteur de fiction, sa casquette de militant, disons, à peu près théologien, et puis une casquette principale, au fond, dans sa vie, puisque c'était son métier. C'était un spécialiste de littérature médiévale et renaissante, et c'était aussi un lecteur farouche. Son ami Tolkien lui reprochait de trop lire. Oui. Et il lisait beaucoup, il lisait avec un intérêt énorme dans plusieurs langues. Et il a écrit et parlé aussi, souvent à la radio, par exemple, de textes littéraires. C'est un, à mon avis, un merveilleux, comment dirais-je, initiateur. Et c'est dommage que cet aspect-là ne soit pas connu. Ce qui est d'ailleurs, ses œuvres littéraires, même ses œuvres, disons, universitaires, sont toujours éditées et sont considérées même comme des classiques, ce qui est assez rare parce que les choses universitaires, ça passe. Il y a de nouvelles recherches qui se font, etc. Mais ce sont des livres à plein temps, si j'ose dire. Et c'est très dommage qu'on ne les connaisse pas plus, mais...
Justement, Irène Fernandez, vous parlez de son appétit littéraire. Et lorsque j'ai lu L'Armoire magique à l'âge de 9-10 ans, j'ai vraiment pensé que ce monde parallèle dans lequel on entrait et où, après avoir vécu des vies entières, on pouvait retourner à son âge initial et ce côté clandestin, pour moi, c'était vraiment une métaphore de la littérature.
Oui, c'est une interprétation qui est d'ailleurs non seulement ingénieuse, mais je crois qu'elle n'est pas fausse. Comme le dit Lewis, donc il pensait très souvent en images aussi, ce qui fait d'ailleurs qu'il passe très bien. Il dit que les grands livres ou les petits livres, d'ailleurs, je veux dire, il ne s'agit pas de faire une hiérarchie de valeurs. Enfin, un bon livre, ça ouvre des fenêtres sur des horizons tout à fait nouveaux. Ça peut sembler une banalité, mais l'idée, c'est l'ouverture des fenêtres. Et c'est un peu ce que vous disiez. Évidemment, Narnia commence par un passage d'un monde à un autre. C'est bien ce qu'on fait quand on lit vraiment un livre.
Oh, c'est joli ça. C'est un endroit qui existe ?
Sans doute, oui. C'est la Vallée d'Or, je crois. Un coin du Hertfordshire.
Un endroit que vous aimez ?
En quelque sorte. Il décorait le mur de ma chambre d'enfant. J'ignorais que l'endroit existait à l'époque. Je croyais que c'était une image du paradis.
La terre promise, eh oui.
Je pensais alors... qu'un jour, au détour d'un chemin ou derrière le sommet d'une colline, il m'apparaîtrait. J'ai eu mal. Oui, j'ai souffert. Autrefois. La première fois est la plus douloureuse. Quand j'ai perdu ma mère.
Quel âge aviez-vous ?
9 ans.
À cet âge-là, on souffre déjà.
Oh oui. C'était la fin de mon monde.
Suzanne Bray.
Elle est décédée quand il était tout petit, il avait 9 ans, d'un cancer, et en plus on l'avait opéré chez eux à la maison. Donc tous les bruits de l'opération, le fait que lui et son frère, ils devaient se taire pour ne pas déranger maman, et puis avec sa mort, son père a été tellement bouleversé, tellement dans le deuil lui-même, qu'il était presque incapable de parler à ses fils. Ça a eu l'effet de... C'était comme si c'était deux orphelins. Et ils avaient presque plus de contact avec leur père pendant la première période. Et puis, tout de suite après, on l'envoie en pension à un internat en Angleterre. Et ce qui s'est très mal déroulé, le proviseur de l'école était quelqu'un de franchement fou, et après il a été même interné dans un asile. Donc il était très cruel et l'enseignement était assez nul. Donc pour Lewis, c'était un traumatisme de plus.
Mais heureusement, Suzanne Bray, la suite de sa carrière universitaire s'est améliorée.
Bah oui, mais c'est surtout, ça s'est amélioré dès le moment où il s'est trouvé chez un précepteur, Monsieur Kirkpatrick, à la campagne anglaise. Et Monsieur Kirkpatrick l'a préparé pour le concours d'entrée à l'université d'Oxford. Et là, pour lui, c'était la joie. Il pouvait lire du matin au soir, avec seulement quelques petites pauses pour manger ou pour aller faire une promenade dans la campagne. Et là, pour lui, c'était l'idéal. Pas de sport, pas d'exercice, pas de mathématiques non plus, que la littérature, les langues et l'histoire. Et il a dit toujours par la suite que c'était son idée de la vie de rêve. Bon, par la suite, il est devenu enseignant universitaire et c'était une vie qui lui convenait à fond. Il a toujours dit qu'il n'aurait pas pu faire autre chose. La recherche, l'enseignement, les rapports avec les étudiants, il était content dans ce milieu.
Encore une lettre de Mrs. Gresham. C'est américaine, juive, chrétienne et communiste.
Tu veux me dire ?
J'aime bien ces lettres, je la trouve très fine par moments. Tiens, écoute ça. Est-ce que l'auteur s'identifie à l'enfant que le magicien ensorcelle ou bien au magicien qui ensorcelle l'enfant? Le ton de ces lettres est assez original. On dirait qu'elle me connaît bien. J'imagine que je dois mettre un peu de moi dans ses contes.
C'est plutôt parce qu'elle est américaine. Les Américains n'ont aucune retenue, pas la moindre inhibition.
Ah, elle pense venir. Elle demande si elle peut venir me voir.
En tout cas, pas ici.
Non, bien sûr. Elle suggère le salon de thé d'un hôtel.
Oh, le thé, ça va, surtout à l'hôtel. C'est peut-être une folle.
Ah non, j'en doute. Elle écrit des poèmes.
Des poèmes? Complètement folle. Tu ne seras pas trop arrangeant.
Non, Warnie, sois sans crainte.
Tu vas voir, je te parie qu'elle rédige une thèse sur les fourrures dans les armoires. Elle va te demander si elle peut venir te regarder en pleine création. Elle s'assiera dans un coin et elle se fera toute petite.
Il ne s'agit que d'un thé, Warnie. Quelques échanges de politesse convenus, nous rentrerons chez nous et notre vie reprendra son cours. Si on commandait des sandwichs.
Je préférerais des toasts. Tu crois qu'ils en ont?
S'est marié que très tardivement, finalement.
Bah oui, mais c'était... Il se sentait pas vraiment libre de se marier avant 1951 parce que il a combattu pendant la Première Guerre mondiale et son ami à cette époque-là, Paddy Moore, lui avait fait promettre et Paddy a fait la même chose pour lui, que si l'un des deux allait mourir à la guerre, que l'autre s'occuperait des parents et les familles des autres. Donc, à partir de l'âge de 19 ans, Lewis a pris la responsabilité pour la mère de Paddy Moore et pour sa jeune sœur. Donc, il a été en ménage avec Mrs. Moore et Maureen à Oxford et... Après un certain temps, Mrs. Moore est devenue assez malade et en tout cas, elle avait très peu de ressources financières. Et c'était seulement à la mort de Mrs. Moore que Lewis se sentait vraiment libre de toute obligation. Et Maureen, à ce moment-là, était déjà mariée et vivait loin de la maison. Donc, sa rencontre avec sa future épouse, Joy Gresham, a eu lieu presque en même temps que le décès de Mrs. Moore.
Donc c'était une de ses fans, finalement, qui l'a fini par épouser.
Oui, ils avaient échangé des lettres avant. C'était d'abord elle qui avait pris contact avec lui suite à la lecture d'un de ses livres. Mais bon, Joy Gresham était quand même écrivain elle-même. Elle avait publié des poèmes et quelques essais. Et par la suite, Lewis a même écrit des préfaces pour une étude des 10 commandements. C'était une femme très instruite, très cultivée. Bon, une Américaine d'origine juive qui avait aussi passé quelques temps dans le Parti communiste, donc elle a eu un parcours assez intéressant. Mais Lewis se sentait avec elle dans une relation d'égalité. Il n'y avait pas de question que c'était lui le grand érudit et elle l'admiratrice. C'était vraiment une relation d'égal à égal.
Daniel Varzecha.
Tolkien faisait partie de son cercle rapproché d'amis, pas d'amis intimes, mais d'amis proches. Il se voyait régulièrement pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'occasion d'un cercle poétique qui s'appelle The Inklings. Et c'était l'occasion pour eux deux, mais pour bien d'autres, de lire des textes. Des textes qui, pour certains, sont devenus des best-sellers. C'est là où Lewis a lu son premier texte sur les Chroniques de Narnia, que Tolkien a lu quelques extraits de ce qui allait devenir Le Seigneur des Anneaux. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Lewis a beaucoup encouragé son ami Tolkien à persévérer dans cette grande entreprise de rédaction du Seigneur des Anneaux. Ils partageaient aussi les deux un amour pour le septentrion imaginaire, la nordicité, et leur histoire est indissociable d'une certaine façon.
À partir du moment où Tolkien arrive à Oxford, ils se connaissaient très bien, ils ont partagé de nombreux intérêts. Tolkien a réussi à enseigner l'islandais à Lewis aussi. Et évidemment, ils avaient aussi des intérêts en commun par rapport à leur foi. Par contre, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient moins proches. C'est surtout pendant les années 30 qu'ils sont extrêmement proches. Et surtout à partir du mariage de Lewis, il voit Tolkien assez peu. Donc, il n'y a pas eu de grandes disputes ou autre chose. C'est juste qu'ils ont pris un petit peu plus de distance. Par contre, on pourrait dire que c'est Lewis qui a surtout encouragé Tolkien à publier son grand œuvre, Le Seigneur des Anneaux. Il est un petit peu le parrain de cette trilogie et je crois qu'on pourrait dire, sans risque de nous tromper, que sans Lewis, Le Seigneur des Anneaux n'aurait pas vu le jour.
Oui, donc c'était vraiment une interaction très féconde de part et d'autre.
Mais oui, surtout au niveau littéraire et dans le cadre de la cercle littéraire The Inklings qui se rencontrait une fois par semaine dans l'appartement de Lewis à Magdalen College et puis ils se rencontraient dans un pub à Oxford le lundi ou le mardi matin en plus, donc ils se rencontraient deux fois par semaine, mais c'était les soirées chez Lewis où toutes les personnes présentes lisaient un petit peu leurs travaux en cours et les critiquaient également. Il y a eu certains récits de ces réunions assez humoristiques parce qu'apparemment Hugo Dyson n'appréciait pas tout à fait toutes les elfes de Tolkien et il était toujours un petit peu en colère quand il y avait encore un elfe qui se présentait, mais il critiquait de façon parfois assez sévère les écrits des uns des autres, surtout au point de vue de style ou clarté.
Tout va bien, me revoilà et je vais bien.
Tais-toi, Peter arrive.
Bien, il y en a qui n'ont pas compris la règle du jeu, apparemment.
Vous ne vous demandiez pas où j'étais passée? Je me suis absentée durant plusieurs heures.
Thank you.
Lucie, le seul bois ici, c'est celui du fond de l'armoire.
Un seul jeu à la fois, Lucie. Tout le monde n'a pas autant d'imagination que toi.
Mais je n'invente rien!
Cette fois, ça suffit.
Et pourquoi est-ce que je mentirais?
Je me suis intéressée à Louise pour des tas de raisons, mais si j'ai eu envie de travailler sur lui, c'est parce que je pense que dans toute son œuvre, il y a une conception du mythe,
Irène Fernandez,
qui est extrêmement riche, qui n'a jamais fait, c'était pas un homme à faire des traités systématiques, etc. Mais il a parlé du mythe, finalement un peu partout. Et le mythe, pour lui, c'est un récit significatif qui met en rapport des éléments presque, je dirais pas symboliques, parce que ça c'est un mot très dangereux, on va se lancer dans des interprétations à n'en plus finir, mais qui vous propose au lecteur ou au spectateur éventuellement, parce que ça peut être un tableau, ça peut être un film éventuellement, il se propose comme un objet parfait, si vous voulez. Il prenait comme exemple les pommes des Hespérides, les jardins des Hespérides. Il dit c'est un mythe, à lui tout seul, on n'a presque pas besoin d'une histoire et qu'Hercule vienne pour les cueillir, etc. Parce que au fond, c'est quelque chose qui vous éveille vraiment à un autre monde. Et l'autre monde, c'est pas... Bien sûr, pour Louis, ça finira par être aussi l'autre monde de Dieu, mais c'est l'autre monde de la poésie. Il voit le mythe comme ça, si vous voulez. Et ça, ça m'a paru très intéressant. Il a une conception, disons, du rôle de l'imagination dans la vie de l'esprit. L'imagination faisant le lien, si vous voulez, entre la pensée qui est nécessairement abstraite et puis la sensibilité qui touche les choses, qui ressent des émotions, mais qui, en général, dit quand on ressent quelque chose, c'est pas le moment où on le pense, et quand on pense quelque chose, c'est pas le moment où on va le ressentir, même si vous voulez écrire, comme il disait, avec un certain humour, il avait écrit un livre sur le problème de la souffrance, quand j'ai une rage dedans, c'est pas le moment où je vais penser la souffrance. Mais il y a une imagination qui permet d'unifier ce qui est souvent disjoint.
C'est cet univers très personnel, très singulier, un imaginaire flamboyant, foisonnant. C'est ça qui m'a frappé, qui m'a touché. Et au-delà de cela, ce qu'il y a derrière, c'est une pensée, c'est une sensibilité au surnaturel, une sensibilité au spirituel, assez hors du commun. Louis, c'est quelqu'un qui est atypique. Il est inclassable. C'est un auteur. Il n'y a pas un Louis, il y a plusieurs Louis. Il y a le Louis conteur d'histoire pour enfants. Il y a le Louis érudit. Hein. Louis était un spécialiste d'Oxford de l'époque médiévale et de la Renaissance, qui a beaucoup écrit sur l'allégorie, par exemple. C'est aussi un apologiste chrétien, quelqu'un qui a connu une expérience de conversion à l'âge de 30 ans. Quelqu'un qui donc a le feu sacré en lui, en quelque sorte, le désir de transmettre ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté. Il y a aussi le Louis, entre guillemets, philosophe. Bon, c'est pas un philosophe pur et dur, mais c'est quand même quelqu'un qui a touché de près la philosophie, donc sa pensée est très structurée et très philosophique. Et tout ça fait pas un Louis, mais des Louis.
Vous vous rappelez la première fois que vous avez été en contact avec un des textes de Lewis ?
Tout à fait, c'était il y a de cela une dizaine d'années, je suis tombé sur une des chroniques de Narnia, ce qu'on a traduit en français par l'armoire magique, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Et c'était, comme disent les Anglais, unputdownable, c'est-à-dire je ne pouvais pas me déscotcher de ce livre tellement il m'apportait des choses insoupçonnées. Un livre absolument magique. Hein. Je crois que Louis n'aurait pas renié ce terme de magic, parce qu'il a beaucoup écrit sur la magie, hein, le processus de lecture qui produit la magie chez le lecteur.
Vous voulez dire que vous êtes une fille d'Ève ?
Non, le prénom de ma maman, c'est Hélène.
Oui, mais vous êtes un être humain.
Oui, bien sûr.
Que faites-vous ici ?
Figurez-vous que j'essayais de me cacher dans l'armoire de la chambre d'amis quand...
Chambre d'amis ? C'est un Narnia ?
Narnia ? Qu'est-ce que c'est ?
Ah, ma chère enfant, vous y êtes ? Le pays de Narnia s'étend du réverbère, là, jusqu'au château de Ker Paravel, sur l'océan oriental. Chaque brindille, chaque pierre que vous voyez, chaque stalactite, fait partie de Narnia.
Elle est incroyablement grande, cette armoire.
Cette armoire, elle recèle de mystères extraordinaires. Parce que, en fait, Louis, dans cette armoire magique, Louis, il y a beaucoup de tiroirs. Il n'y a pas que le tiroir littérature pour enfants. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
Moi, je me suis demandé vraiment pourquoi rentrer dans un autre monde par le truchement de cette armoire, justement. Pourquoi une armoire, à votre avis?
Pourquoi? Parce que Louis, c'est l'auteur du familier, ce qu'on appelle en anglais « homeliness », c'est-à-dire les choses familières, les choses de tous les jours, desquelles surgit un monde inconnu, insoupçonné, magique, poétique. Et alors, c'est aussi Louis, c'est l'auteur qui n'a jamais quitté son enfance, dans le sens positif du terme, à savoir qu'il ne boudait jamais son plaisir de lire des livres pour enfants, même à 50 ans et plus. Et un jour, il a dit à son ami Tolkien, il a dit, bon, il serait peut-être temps que nous nous y mettions nous-mêmes, parce que je ne trouve plus trop mon compte dans ce que je lis autour de moi, et il est grand temps que nous écrivions nos propres histoires. Et cette armoire, ça représente le familier, et puis l'extraordinaire en même temps. De l'ordinaire sort l'extraordinaire. Voilà, et c'est une façon d'appréhender Louis. Il est capable de faire surgir l'extraordinaire de l'ordinaire.
Pourquoi une armoire, Suzanne Bray?
Il y a plusieurs théories à ce sujet. Je crois que le plus convaincante, c'est une nouvelle de l'auteur anglais Edith Nesbit, qui a publié une nouvelle pour les enfants qui s'appelle La Tante et Amabel, que Louis avait lu pendant sa jeunesse. Et dans cette histoire, Amabel entre dans un autre monde à travers une armoire. Donc, on pense que c'est très, très possible que Louis se rappelait de cette histoire et qu'il a utilisé la même porte d'entrée parce qu'il aimait beaucoup les histoires de Nesbit et il se disait toujours assez influencé par elles. Donc, je crois que c'est la théorie la plus convaincante. Il y a eu d'autres analyses freudiennes que je trouve un peu farfelues, mais certaines personnes l'ont interprété selon les techniques de psychanalyse où une armoire remplie de fourrure représenterait la naissance physique. Mais bon, je suis pas 100% convaincue.
Rempli de fourrure.
Oui, l'armoire où on entre dans le monde de Narnia est rempli de fourrure. Et dans la première histoire, les quatre enfants prennent les manteaux en fourrure et les mettent pour ne pas avoir froid sous la neige du monde de l'éternel hiver.
Non. Le professeur ne nous en voudra pas de les avoir empruntés. D'autant que... lorsqu'on y réfléchit, en toute logique, ces manteaux ne sortent même pas de l'armoire.
C'est un manteau de fille!
Et alors?
Comment vous en êtes venu à être Frédéric Caballero à vous poser la question du genre dans son œuvre?
Je suis partie de l'accusation qui a été portée contre lui, qui est qu'en fait on l'a accusé d'être misogyne. Et ça m'a intriguée. Et en fait, j'ai relu toute son œuvre avec cette question en tête. Et puis, c'est vrai que ça peut être une impression de surface, mais en fait, quand on creuse, c'est pas du tout le cas et c'est même le contraire, en fait. Et j'ai vraiment eu envie, justement, donc, de creuser cette question du genre à partir de cette accusation qui avait été portée contre lui.
Donc, quels étaient les éléments qui faisaient penser à cette misogynie?
Donc, en fait, il a une vision assez traditionnelle de l'homme et de la femme. Et effectivement, il s'appuie sur les visions des anciens, en fait, sur les visions d'Aristote, de Platon, de Pythagore, etc. Et puis ensuite repris par Milton au moment de la Renaissance avec la théorie de la hiérarchie naturelle où, en fait, la femme correspondrait plus à la matière et l'homme à l'esprit et à la forme. La femme serait plus proche de la terre. Donc, du coup, la femme plus proche de la finitude et l'homme plus proche de la divinité. Ce qui justifierait une hiérarchie, en fait. Hein, c'est ce que disaient les anciens. Et donc, Lewis s'appuie sur cette vision. Il présente des mondes hiérarchiques. Mais ensuite, il y a un dépassement, en fait, de cette hiérarchie à plusieurs niveaux. Le premier niveau, en fait, c'est que la femme correspond plus à la finitude et l'homme plus au divin, pour dire donc qu'en fait Dieu est masculin. Alors masculin dans le sens du genre, attention, il ne faut pas confondre le genre et le sexe. Hein. Lewis insiste beaucoup là-dessus. Et donc le divin serait plus masculin et l'homme, dans ce sens-là, serait plus féminin. Donc ça, encore une fois, c'est assez traditionnel. Mais là où Lewis devient original, c'est qu'en fait, il pense qu'à partir du moment où l'homme doit être féminin, en fait, il faut que l'homme, en tant qu'anthropos, c'est-à-dire l'homme, homme et femme, passe par un processus de féminisation pour s'approcher de Dieu, en fait. Et c'est là qu'il devient original.
Suzanne Bray.
Il était quand même élevé dans l'église anglicane en Irlande du Nord. Ses parents étaient pratiquants et lui aussi, il se considérait croyant jusqu'à l'âge d'environ 13 ans. Il raconte dans son autobiographie, Surpris par la joie, que c'était l'intendante à son internat qui était très mêlée dans l'occultisme, qui l'avait fait perdre la foi. Et donc, de 13 ans jusqu'à 1929, il se considérait athée, il était même assez militant là-dessus. Mais en arrivant à Oxford, même au début, il y avait quelques doutes parce qu'il y avait tant d'amis à Oxford qui étaient chrétiens. Et il était un peu étonné. Et en même temps, dans ses lectures, il a dû se rendre compte que les auteurs qu'il aimait le plus étaient des auteurs croyants. Et donc, disons, il disait par la suite que c'était ses lectures qui avaient préparé son esprit à recevoir la foi. Oui, c'était... Pour devenir théiste, pour croire en Dieu, c'était quelque chose d'assez subit. Il a dit que ça a eu lieu quand il était en route pour une visite au zoo. Donc, et quand il est parti, il n'y croyait pas. Et quand il est arrivé, il croyait. Mais sa conversion au christianisme propre, 2 ans plus tard, c'était plutôt le résultat d'une conversation très célèbre avec le professeur Tolkien et un autre ami, Hugo Dyson. Et ils ont passé la grande majorité de la nuit avec lui en plein air dans Addison Walk, derrière Magdalen College où il enseignait. Et les deux autres ont réussi à persuader Lewis que quand il trouvait un dieu qui meurt et qui revient à la vie dans la mythologie, il aimait bien. C'était seulement quand il trouvait dans le Nouveau Testament qu'il avait un genre de préjugé contre. Et cette conversation a réussi à le persuader que en Jésus-Christ, le mythe est pour une fois devenu réalité et que le Christ est la réalisation de toutes les mythologies et toutes les aspirations de l'être humain dans le passé. Donc on peut dire que c'était Tolkien et Dyson qui ont fini par le convaincre. Mais à partir de là, quand il s'est engagé, c'était à 100%. Donc, ça a vraiment transformé sa vie. Et ironiquement, ça a aussi transformé son écriture. Tout ce qu'il a écrit avant, c'est pas vraiment magnifique. Tandis que, à partir du moment de sa conversion au christianisme, c'est non seulement sa façon de voir le monde qui a changé, mais aussi son style, sa prose, sont nettement améliorés également. Et tout ce qu'il écrit à partir de ce moment-là se vend en très grande quantité. Il devient best-seller.
Pourquoi la bière est toujours froide?
Oui, j'arrive.
Quelle bannière! Ah, ça vous gèle l'estomac et ça tue.
J'ai une critique à propos de ton armoire.
L'armoire? Nos enfants l'ont adoré.
Oh non, pas les livres de Jack. Pitié, vous n'allez pas encore nous rebattre les oreilles avec ça.
Si, si, écoutez. Dans ton livre, tu dis que la maison appartient à un vieux prof, un célibataire endurci. Et pourtant, tu nous dis que quand elle pénètre dans l'armoire magique, la fillette découvre qu'elle est pleine de fourrure.
Oh, bravo, Eddie, très fin.
N'est-ce pas?
C'est simple, elles appartenaient à la mère du professeur, c'est simple.
Ah, donc pour atteindre le monde magique, on traverse d'abord la fourrure de la mère, c'est bien ça?
Non, non, je t'arrête tout de suite, John, épargne-nous ton fadisme de bazar.
Mais tes symboles sont chrétiens, j'en suis certain.
Non, Harry, il n'y a pas à chercher si loin, tout est dans le livre. C'est de la magie, c'est tout.
La magie!
Tenez. Je vous montre. La fillette a donc pénétré dans l'armoire. Les manteaux sont accrochés, serrés.
Oui, mais tu oublies les fourrures.
Non, elles n'ont pas d'importance. Alors l'enfant est obligé de repousser, d'écarter les vêtements qui l'étouffent. Elle est sur le point de suffoquer quand soudain, une lumière éclatante, les arbres, la neige, une clarté qui vient d'en haut. Le contraste est total. L'accès magique à un monde merveilleux. Quelle heure est-il?
Seigneur, mon train.
Enfin bref, voilà. Bonsoir tout le monde, hein. À demain. Bonsoir.
Bonsoir, Jacques.
Bonsoir, monsieur.
Anne-Frédérique Caballero. Quand on regarde dans l'œuvre de Lewis, tous ses principaux personnages donc, passent par ce processus. Et je le décris en fait. Les enfants dans l'armoire magique, par exemple, doivent passer par cette naissance qui est symbolisée en fait par l'armoire, hein, ce lieu sombre, étroit. Et ensuite, ils se retrouvent dans un monde nouveau, froid. Et en fait, c'est toujours lié aussi à la découverte des sens. Par exemple, dans le cas de l'armoire, on commence pas par voir, on commence d'abord par toucher. On commence par sentir et ensuite on voit. Et puis, très peu de temps après cette expérience de naissance, un moment où la personne est abreuvée et nourrie. Donc là, par exemple, Lucie est invitée par le faune qui lui donne un délicieux goûter. Et puis qui satisfait aussi ses autres sens, il lui joue de la flûte. Et puis les autres enfants, c'est au moment où ils rencontrent la famille Castor. Hein, donc eux, ils sont nourris par les Castors. Et c'est pareil, les repas sont toujours des moments très sensuels chez Lewis. Il insiste beaucoup sur la nécessité de redécouvrir la chair, de redécouvrir les sens en fait. C'est présent dans absolument toutes les histoires qu'il raconte, dans la trilogie cosmique également. Ransom, le personnage de la trilogie cosmique, est un être justement qui, au départ, est très masculin, très cérébral, célibataire, solitaire. Et en fait, il passe par tout un processus où il doit découvrir sa féminité, en fait, lorsqu'il part sur la planète de Mars. Il part dans une capsule spatiale. Et quand il arrive sur la planète Mars, eh bien, quand on lit la façon dont se passe son arrivée, encore une fois, ça s'apparente tout à fait à une naissance. Hein. C'est-à-dire qu'il descend même la première. Il commence par toucher le sol avant de descendre et de découvrir avec ses yeux cette nouvelle planète. Et puis ensuite, là-bas, il découvre un peuple très féminin, un peuple qui est très proche de la Terre. La sensualité, ce sont des êtres qui sont très ronds, poilus aussi. Ça, c'est important aussi chez Lewis, l'importance des poils. Justement, Aslan est un être avec une fourrure magnifique. Et puis, les poils jouent une importance symbolique chez Lewis. Ils représentent justement la chair, la sensualité. Et donc, pour revenir à Ransom, ce n'est que lorsqu'il a renoué avec sa féminité qu'après, il peut aller chez un autre peuple que sont les Séronies, qui, eux, sont plus masculins, vivent dans les hauteurs et sont philosophes. Et même d'apparence, sont plus masculins parce qu'ils ont une forme plus allongée. Etc.
Quand vous parlez de la chair, justement, c'est étonnant, puisque pour en revenir à sa biographie, il a été célibataire la majorité de sa vie, en fait. Il s'est marié vraiment sur le tard.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, il a eu, par rapport à la chair, il a eu une histoire, justement. Au départ, en fait, il a eu tendance à la rejeter dans sa jeunesse, à s'en méfier, parce qu'il avait peur de ses débordements. Alors, évidemment, il parle de deux débordements possibles hein, par rapport à la chair. Il voit d'un côté le débordement qui est celui, justement, de se laisser aller au désir de la chair, hein, qu'il condamne, bien sûr, et l'autre débordement qui est de la renier complètement. Hein. Et en fait, lui, il a lutté contre ces deux dangers. Mais pour lui, le christianisme a correspondu quand même, justement, à une réconciliation avec la chair. Parce que dans sa jeunesse, suite en fait à la Première Guerre mondiale, où il a été vraiment horrifié par ce qu'il a vécu, par l'expérience des tranchées, etc., il a eu vraiment un mouvement, à un moment donné, de rejet de la chair, du sang et de tout ce que ça comporte d'horrible. Il a eu envie de chercher plutôt justement la transcendance dans l'esprit, en fait. Et puis, quand il a découvert, redécouvert, on va dire, le christianisme, il s'est rendu compte que finalement, c'était un piège d'accorder trop d'importance à l'esprit. Hein, parce que c'est l'orgueil, c'est le piège de l'orgueil, c'est celui dont s'est rendu coupable Satan, en fait, ainsi que le dit saint Augustin. Il s'est rendu compte que justement, il fallait renouer avec la chair, dans le sens d'accepter l'humilité de la chair. Et ça a correspondu à son expérience de redécouverte du christianisme.
Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de voir comment Louis, tout au long de son parcours, tout au long de sa carrière, a construit un récit particulier, singulier, dans lequel on retrouve toute la dimension mythopoétique, à savoir la fascination pour la mythologie, la fascination pour la poésie, pour la magie. Comment les choses se mettent en place dans ce récit? Par exemple, la question de l'espace. Louis a tout le temps, en tant que médiéval, il a une perception médiévale de l'espace et du temps. Et dans ses récits, il revisite cette dimension très médiévale de l'espace. C'est pour ça, par exemple, les chroniques, vous avez toutes les dimensions de l'espace qui sont visitées. D'abord, vous avez le monde des enfants, le monde réel des enfants, ça se passe globalement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ce monde qui est à la fois parallèle, le monde de Narnia, et les passerelles qui existent entre ces deux mondes parallèles. Hein, parce qu'en fait, il y a des passerelles. Les enfants passent d'un monde à l'autre. Et même certains personnages de Narnia vont dans le monde réel des enfants. Mais même dans Narnia, vous avez plusieurs strates, plusieurs dimensions spatiales. Il y a une dimension dantesque. Les enfants vont dans les entrailles de la Terre à plusieurs reprises. Ils vont aussi au-delà des mers. Ils vont aussi dans le ciel, vous voyez, il y a toute cette revisitation de l'espace qui est particulièrement intéressante. Et puis vous retrouvez cette dimension dans la trilogie cosmique qui parle justement de cette épopée, de cette odyssée de Ransom, d'abord sur Mars, ensuite sur Vénus et enfin sur la Terre. Et en même temps, vous avez à chaque fois la revisitation de certains mythes, comme par exemple la création du monde, le mythe d'Adam et Ève, mais sur d'autres planètes.
Et en quoi ce découpage spatial avec plusieurs temporalités qui se superposent, en quoi cela est une approche médiévale?
C'est que les médiévaux, contrairement à l'idée reçue, n'étaient pas géocentriques ni anthropocentriques. Ils avaient déjà la conscience de l'infiniment grand. Et que finalement, la planète était à la marge de l'univers et l'être humain était à la marge. Et donc il y a cette fascination pour l'infiniment grand déjà. Et cette fascination, Louis la reprend, la revisite, la redécrit. En fait, Louis fait quelque chose que beaucoup d'autres ont déjà fait, c'est-à-dire il réenchante le monde. Il montre, c'est un enfant Louis, il est ébloui devant le monde et il partage ce regard émerveillé que les médiévaux avaient aussi.
Non, rangez vos armes. C'est le combat de Peter.
Tu te prends peut-être pour un roi, mais tu vas mourir comme un chien.
Peter, nettoie ton épée. Relève-toi, Sir Peter, terreur des loups, chevalier de Narnia.
Il y a eu d'autres ouvrages également qu'il a écrits qui sont très atypiques et qui sont directement nourris de mythologie grecque.
Oui, il y a le dernier roman qui est traduit en français sous le titre « Quand un visage ouvert », c'est « Till we have faces » en anglais. Et oui, ça c'est une réécriture du mythe de Psyché.
donc de Eros et Psyché, mais avec quand même un message plus chrétien. Donc le personnage principal, c'est la grande sœur de Psyché, la reine Oroal, qui est jalouse de la beauté et de l'expérience spirituelle de sa sœur. Et tout le roman, c'est la revendication d'Oroal contre l'injustice de Dieu. Et à la fin, c'est un petit peu comme la théophanie dans le livre de Job, Job dans l'Ancien Testament, où elle se rend compte de la réalité d'un Dieu qui la dépasse, qu'elle ne peut pas comprendre. Et elle arrive à être réconciliée avec la réalité du divin.
Donc on a toujours cette écriture en palimpseste, et évidemment avec le monde de Narnia, on est complètement dans une réécriture de la Bible.
Oui, mais pas uniquement. Il y a toute l'imagerie biblique, il y a l'événement christique dans le première chronique, il y a le parallèle entre l'Exode et le troisième, le cheval et son écuyer. Mais il y a également de nombreuses allusions à la mythologie nordique, celte, même classique. Et en plus, ce n'est pas une représentation religieuse qu'on ne peut pas rater. C'est là, mais c'est discret. Un enfant peut lire les chroniques de Narnia sans se rendre compte qu'il y a un message religieux. C'est surtout une histoire. Et je crois que Lewis le soulignait, que ce n'était pas de la propagande religieuse et ce n'est surtout pas de l'allégorie. C'est une histoire, c'est même il y a une qualité mythique et il y a évidemment de différentes nuances de sens, de différentes couches de sens dans cette série. Mais si on le lit uniquement comme une histoire religieuse, on rate beaucoup.
Tout a commencé par une image. Et ensuite se déploient les concepts.
Je crois que c'est vrai. J'ai dit que c'était un artiste. Et ça aussi, on ne le dit peut-être pas assez souvent.
Irène Fernandez.
C'est quelqu'un qui a toujours voulu écrire, comme beaucoup d'écrivains. À 8 ans, il a commencé à tenir son journal et à écrire, etc. Vous voyez, depuis l'âge de 8 ans, jusqu'à sa mort, il ne s'est jamais arrêté. Il a voulu très longtemps être poète, c'est-à-dire il a écrit des poèmes avec toutes les règles de la poétique anglaise, etc. Ce qui compte pour lui, c'est la valeur, même les sons du langage, vous voyez. Et sa façon de fonctionner, c'est ça, cet amour du langage, et des images qui s'imposent à lui. Par exemple, on vient de parler du mythe de Psyché dans Un visage pour l'éternité. Cette image, il y a une image dedans. Psyché a un palais que son mari lui a construit au milieu des montagnes, etc. Et quand sa sœur, qui est sa poursuite, essaye de la retrouver, elle ne voit pas le palais. Alors l'idée, c'est que le palais est invisible. Mais cette idée de l'invisibilité du palais, c'est une image, en fait. C'est cette femme qui est seule dans la montagne et qui croit que sa sœur est devenue folle, vous voyez. Mais ça, il l'avait, je le sais, parce que justement, j'ai lu ses journaux, etc. Il l'avait depuis l'âge de 20 ans. Or, ça, il l'a écrit à la fin de sa vie, vers l'âge de 60, vous voyez. Et pour ce qui est de Narnia, il y a des gens, étant donné que Narnia a une thématique chrétienne, on a dit, il a écrit, et que lui-même était profondément chrétien, on a dit, voilà, il a écrit des contes pour illustrer sa foi et pour la faire passer, etc. En fait, il ne les a pas écrits pour ça. Ça lui a pris tout d'un coup, et tout ça à partir d'images qui s'étaient imposées à lui. Ces images, c'est un faune qui se promène dans la neige avec des paquets. Des paquets comme s'il venait de faire des courses. Vous voyez, ça peut paraître incohérent, mais sur le plan de l'imagination, ça marche. Et puis d'autre part, il voyait aussi un lion, il voyait une reine sur un traîneau. Et ça, ce sont des images qu'il a vues avant d'écrire, et c'est comme ça qu'il fonctionnait, si vous voulez, c'est comme ça qu'il écrivait, et ça depuis toujours, bien avant même d'être chrétien, bien avant, c'est son mode de fonctionnement.
La tactique du diable. Mon cher Wormwood, quand deux êtres ont vécu ensemble pendant de nombreuses années, il arrive généralement que certaines intonations de la voix, certaines expressions du visage de l'un soient intolérablement irritantes pour l'autre. Exploite ce genre de choses. Aide ton protégé à prendre pleinement conscience de ce froncement de sourcils qu'il détestait déjà chez sa mère lorsqu'elle entrait dans sa chambre d'enfant et montre-lui à quel point cela l'agace. Donne-lui à entendre qu'elle sait fort bien à quel point cela l'irrite, lui, et qu'elle le fait exprès. Si tu connais bien ton métier, il ne se rendra pas compte de l'improbabilité d'une telle hypothèse. Et surtout, ne lui laisse jamais soupçonner qu'il pourra lui-même avoir des habitudes ou des tics qui exaspèrent sa mère. Comme il ne se voit ni ne s'entend, c'est un jeu d'enfant. Ton oncle affectionné.
Une autre dimension de son œuvre, notamment, c'est l'humour. Il y a notamment un texte très drôle, La tactique du diable, par exemple.
Ah oui, mais il avait de toute façon beaucoup d'humour et il s'en sert beaucoup, justement, dans ses réflexions, etc. Au détour, tout d'un coup, d'une page, vous avez une espèce de trait comme ça qui illumine les choses et qui fait rire, forcément. Les tactiques du diable, c'est le premier livre, d'ailleurs, qui a été traduit en France. Il avait, à ce moment-là, eu un certain succès, d'ailleurs. C'est les lettres d'un vieux diable à un jeune. Le jeune étant censé être le démon gardien d'un jeune homme. Et au fond, c'est la vie d'un jeune homme de 20-25 ans, avec les problèmes qu'il peut rencontrer, etc., vu avec une perspective infernale. Et c'est très remarquable. Et puis, c'est écrit avec le plus grand sérieux. Vous savez, ça avait paru, par petits morceaux, enfin, dans un petit canard quelconque qui n'existe plus, qui était vendu à des gens, des anglicans pieux. Et il y a un pasteur qui s'est désabonné en disant... On donne là-dedans des avis proprement diaboliques. Même, ça prouve qu'on peut même être anglais et ne pas repérer l'humour.
Je peux vous lire un texte justement où il parle du masculin et du féminin dans le troisième volume de la trilogie cosmique. L'héroïne, c'est Jane, c'est une femme qui, justement, en fait, refuse d'accepter la dépendance, refuse d'accepter le masculin dans le sens de la divinité, justement. Et à un moment donné, donc Ransom lui dit « Au mâle, vous auriez pu échapper, car il existe seulement au niveau biologique. Mais au masculin, aucun de nous ne peut échapper. Tout ce qui est au-dessus et au-delà de toute chose est si masculin que nous sommes tous féminins par rapport à lui. » Et puis il y a un autre texte que j'avais noté aussi où il explique justement qu'en fait, il faut vraiment dépasser les sexes et ça c'est extrêmement important. Parce que si on reste au niveau des sexes, on tombe dans les clichés habituels de l'éternel féminin et puis on prête le flanc aux critiques féministes, hein, bien sûr. Et en fait, Lewis justement insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait dépasser le sexe et arriver au genre. Le genre est une réalité et une réalité plus fondamentale que le sexe. Le sexe est en fait une simple adaptation à la vie organique d'une polarité de base qui sépare tous les êtres humains. Le sexe féminin est simplement une des choses qui sont du genre féminin. Il y en a beaucoup d'autres. Masculin et féminin nous frappent à des plans de réalité où mâle et femelle n'auraient tout bonnement aucun sens. Masculin n'est pas une forme atténuée de mâle, non plus que féminin ne l'est de femelle. Au contraire, le mâle et la femelle des créatures organiques ne sont que de timides reflets assez flous du masculin et du féminin. Leurs fonctions reproductives, leurs différences de force et de taille montrent en partie la vraie polarité, mais en même temps l'obscurcissent et la présentent sous un faux jour.
Et ça, c'est un extrait de quel...
C'est un extrait donc de Perelandra, qui est le deuxième volume de la trilogie cosmique, où Ransom se rend sur la planète Vénus, en fait, et il rencontre justement Perelandra, qui est Vénus, et qui représente le féminin, après avoir rencontré... Mars, hein, qui représentait le masculin. Et c'est à ce moment-là justement qu'il comprend qu'en fait il existe une réalité qui est le genre et qui est bien au-dessus du mâle et de la femelle en fait. Il y a aussi la théorie de Jung justement où il parle de l'anima et de l'animus, hein, donc d'une partie masculine en chaque être féminin et d'une partie féminine en chaque être masculin. Et à partir du moment où on parle de genre et non de sexe, on n'est pas enfermé dans des stéréotypes, en fait. Et ça, il l'avait bien vu. Et il disait, par exemple, lui-même qu'il détestait les êtres trop féminins ou trop masculins. Il n'aimait pas les caricatures. Et dans ses œuvres, d'ailleurs, on voit souvent que les mauvais personnages sont souvent des caricatures d'hommes ou des caricatures de femmes, et que ces héros sont des personnages qui sont caractérisés par un équilibre.
En fait, Lewis, comme d'ailleurs je pense la plupart d'entre nous, mais de façon peut-être plus développée, c'est un être unifié. C'est-à-dire quand il fait quelque chose, quand il écrit quelque chose, qu'il fasse un cours d'histoire de la littérature, qu'il écrive un roman ou une romance, je ne sais pas comment il faut les appeler, ou qu'il fasse qu'il traite une question morale ou religieuse, il se met toujours tout entier dedans et il y a une communication entre tous ces domaines. Il ne fonctionnait pas en quartier séparé, vous voyez. Alors, je pense que c'est pour cela aussi que dans sa trilogie, par exemple, il y met beaucoup d'idées qu'il avait sur la façon de voir le monde. Mais ça vient, à mon avis, tout à fait naturellement. Vous voyez, il y a des gens qui écrivent des choses, ils ont leurs idées d'un côté, puis une vague image ou imagination de l'autre. Chez Lewis, il y a une unification, une unité de tout ça.
J'ai l'impression, Irène Fernandez, que cette unification passe aussi par le fait d'avoir intégré l'enfance et l'âge adulte. Finalement, ce sont des textes pas uniquement pour les enfants.
Ah, si vous voulez parler de Narnia, parce que pour le reste, ce qu'il a écrit n'est pas... Il n'a écrit qu'une œuvre, une œuvre très importante, puisque c'est les 7 chroniques de Narnia, qui, elles, ont été écrites vraiment pour les enfants, c'est-à-dire des œuvres courtes, avec un vocabulaire relativement restreint, etc. Le reste de l'œuvre de Lewis, c'est vraiment pour adultes. Mais, en fait, Lewis disait lui-même, il n'y a rien de plus idiot que de classer les lectures en fonction de l'âge éventuel des lecteurs. À partir du moment où un livre est bon, il peut être bon à tous les âges, il peut retentir à tous les âges. Et c'est bien ce qui est arrivé aux Chroniques de Narnia, parce que Lewis vraiment pensait que ce serait lu que par des enfants, et ça a été... Les adultes s'en sont emparés très rapidement. Et puis ça reste, aux États-Unis, en Angleterre, on cite Narnia, on cite l'armoire par laquelle on passe d'un monde à l'autre, etc., sans aucune... nécessité d'expliquer, vous savez, je suis en train de citer Lewis, etc. C'est tout à fait. Et dans des contextes qui n'ont plus rien à voir, d'ailleurs, quelquefois, avec le monde immédiat de Lewis. Moi, je l'ai vu, par exemple, je l'ai quelque part encore, je l'ai vu comme illustration d'un paradoxe de la physique moderne. Enfin, c'était une explication, bien sûr, pour des gens comme nous qui n'y comprenons peut-être pas grand-chose, mais pour expliquer, l'auteur disait, mais tu sais, c'est comme l'armoire, on passe et on arrive à un autre. Il ne mettait pas une note en bas de page, vous voyez. Et puis même dans des contextes vraiment tout à fait différents.
C'était Une vie, une œuvre, C.S. Lewis, Pourquoi une armoire, par Lydia Benitzrak. Avec Suzanne Bray, auteure de C.S. Lewis ou La vocation du best-seller et À travers l'armoire magique. Irène Fernandez, auteure de C.S. Lewis, Mythe, raison ardente. Daniel Varzecha et Anne-Frédérique Caballero, enseignants d'anglais. Extrait des films Le monde de Narnia chez Disney et Les ombres du cœur de Richard Attenborough. Lecture Tao Begou. Coordination Anne de Biran. Prise de son Pascal Baudin et Mathieu Leroux. Mixage Philippe Carminati. Une réalisation de Séverine Cassard.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et le week-end prochain, nouveau jeu des pères, samedi Franz Fanon et dimanche son ami Kateb Yassine, relié par l'amitié et le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Et dans un instant, c'est le journal, juste avant les passeurs de sciences.